Bienvenue dans La Voix au chapitre, le podcast médiéval et littéraire animé par Marielle Avesco et Anaïs Guiraud. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Retrouve avec Anaïs ce soir pour un nouveau podcast et pour parler un petit peu d'un sujet qui concerne particulièrement les auteurs et notamment les auteurs de romans historiques. Une étape, à mon avis, incontournable de l'écriture de romans historiques, c'est la recherche. Voilà, la recherche d'informations et comment lier la recherche avec notre écriture, comment est-ce qu'on s'organise, voilà, on va discuter de ça ensemble et voir un petit peu, confronter un petit peu nos manières de faire et voilà. Alors dis-moi Anaïs, toi du coup, j'imagine que les recherches font pleinement partie de ton travail d'écrivain, toi qui écris du coup beaucoup de, qui écris essentiellement du coup des romans historiques, comment est-ce que toi tu gères ça? Comment est-ce que tu t'organises?
Bonsoir Mariella, merci à nouveau pour ton invitation. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec toi sur ces divers sujets. Et donc, c'est vrai que en discutant toutes les deux, c'est un sujet qui nous a paru tout à fait intéressant de parler des recherches quand on est auteur. Et je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui, en herbe ou pas d'ailleurs, qui seront intéressés d'écouter ce qu'on a à dire sur ce sujet. Moi, très clairement, comment je procède? Je ne sais pas si je peux dire que j'ai une méthode très exactement, mais je peux au moins dire que de par ma formation, j'ai à minima une facilité à trouver des sources. De par ma formation juridique, une de mes principales tâches en tant que juriste, c'est toujours de rechercher, que ce soit des textes ou des jurisprudences, donc des décisions de tribunaux, pour pouvoir argumenter quand on me demande, quand on me pose une question ou quand je dois chercher des solutions juridiques.
Ouais, c'est un bon atout. Déjà, hein.
Voilà, je pense qu'effectivement, ça me donne une base pour savoir identifier déjà quelles sont les sources qui sont, on va dire, plutôt fiable et quelles sont les sources qui sont pas forcément fiables ou qui sont plutôt de l'ordre de la généralisation ou de la vulgarisation. Et typiquement, si j'adore Stéphane Bern et que j'adore également
Franck Ferrand.
Franck Ferrand, voilà, tout à fait, je les adore.
Mais oui, moi aussi, c'est vrai que c'est sympathique leurs émissions quand même.
Leurs émissions sont très sympathiques, souvent très très bien faites, hein, faut bien admettre. Mais ce n'est pas forcément ce que je vais classer, par exemple, dans des sources fiables à mon niveau. Pourquoi? Parce que typiquement, Stéphane Bern, dans ses documentaires, prend souvent des sources chez les historiens du 19e siècle qui ont fondé notre base historique et l'histoire telle qu'on la connaît, telle qu'on l'enseigne encore aujourd'hui, je pense, dans les écoles. Ne tient pas forcément compte des évolutions. Et ça, je trouve que quand on fait des recherches, c'est quand même hyper important d'essayer de trouver des sources qui soient récentes.
Oui, récentes et actualisées, oui, tout à fait.
Exactement.
Ah ouais, tout à fait. Alors écoute, ouais, moi j'ai moins, on va dire, moins dans ma formation. Alors moi j'ai fait des études littéraires et j'ai fait quand même pas mal d'histoire et tout ça. C'est vrai qu'on a été sensibilisés à ça, mais c'est vrai que je n'ai pas, on va dire, à mon avis, cette sensibilité-là, en tout cas, enfin, c'est vrai. Mais pareil, j'essaye au maximum plutôt, de trouver des sources fiables et pas trop vulgariser aussi. C'est sûr que du coup, surtout quand on fait des romans, enfin, en tout cas, je trouve, hein, quand on fait des romans historiques, j'imagine que c'est la même chose quand on fait de la science-fiction et qu'on cherche.
Je pense que c'est très proche.
Voilà, des références scientifiques. Voilà. Je pense que du coup, c'est bien d'aller trouver les informations dans les sources les plus fiables, effectivement les plus actuelles qui soient. Et c'est ce que je m'efforce de faire aussi.
Après, je pense qu'avec ta formation justement plutôt littéraire et surtout de prépa, tu as quand même des bases qui sont extrêmement solides sur la question. Donc, Déjà ça,
et puis une habitude.
Une habitude de chercher.
Une habitude de la recherche, de faire des fiches, de synthétiser. Voilà. Enfin, c'est vrai que ça, par contre, ça fait partie aussi de ma formation. C'est presque devenu instinctif, en fait.
Complètement.
Voilà, en deux années de prépa, et puis même après, j'ai fait une licence de lettres. Enfin, c'est devenu automatique, quoi.
Naturel.
Complètement.
C'est ça. Moi, je pense que c'est effectivement entre 60 et 65% de mon travail quotidien, la recherche de sources.
C'est
vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire. Alors après, je ne me coupe pas non plus des sources moins fiables parce que d'abord, on écrit des romans.
C'est ce que je pense aussi.
Voilà.
L'idée, c'est quand même de romancer aussi un petit peu, quoi. Mais c'est ce qui n'est pas toujours facile. Moi, en ce moment, je suis en train, d'écrire un roman historique. Et je sais pas toi, mais des fois, je suis happée par mes recherches historiques et par toute la généalogie ou toute la chronologie. Et je me perds un peu dans tout ça. Et je me dis, des fois, je suis obligée de prendre un peu de recul en me disant. Attends, là c'est quand même un roman que t'écris, c'est pas non plus un essai. Enfin voilà, c'est vrai que des fois c'est difficile, je trouve, de trouver la bonne part. Et même après, par rapport à ce qu'on insère dans nos textes, pour pas que ça vire à la description ennuyeuse. Enfin voilà, c'est des fois je trouve un équilibre qui est pas forcément très facile à trouver.
Non, pas du tout. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien insérer dans mes romans, donc moi, j'écris que de l'historique pour le coup, c'est vraiment aussi la petite anecdote, le petit truc que je vais avoir trouvé que je trouve sympa, le mythe ou la légende qui va me plaire et qui va apporter quelque chose au moment où mes personnages sont en train de faire telle ou telle action. J'aime bien, typiquement, j'adore, c'est vrai, parler de la bouffe dans mes romans. C'est quelque chose qui me fascine au Moyen-Âge, j'adore ça.
Pareil, du coup,
c'est vraiment, il y a toujours une scène où ils mangent, où il y a un banquet, où il y a quelque chose qui se passe, ils vont boire un coup à la taverne, c'est sûr et certain, ça va se retrouver dans mon roman. Donc, j'ai fait pas mal aussi de recherches là-dessus. Et ce que je fais généralement, c'est que je classe mes sources en grande thématique, grand lot, et on va dire il y a Internet forcément parce que aujourd'hui c'est quelque chose dont on peut quasiment pas se passer, c'est rapide, c'est facile. Alors après, c'est sûr que c'est pas Wikipédia que je vais recommander parce qu'il y a souvent, comme c'est quelque chose de participatif, il y a parfois des erreurs, etc. Mais par exemple, tu disais une chronologie ou une généalogie, ça va être utile pour retrouver quelque chose de rapidement.
Oui, complètement. Ou même des cartes. Moi, je sais que là, je revoyais tout l'itinéraire des croisades et je trouvais que c'était quand même pratique d'avoir des cartes à portée de main et de revoir un petit peu le chemin, tout ça, d'avoir tout ça en tête, quoi. Il y a quand même des choses qui sont hyper pratiques par le biais d'Internet. Après, je trouve, et je sais pas toi comment tu t'organises aussi, le piège. Je trouve quand même, d'un peu de tomber dans ces recherches et d'en oublier d'écrire. Alors, je ne sais pas si toi, tu alternes, comment est-ce que tu organises tes sessions? Tu fais des sessions de recherche et des sessions d'écriture ou est-ce que tu mêles les deux, quoi?
C'était exactement la question que je voulais te poser, figure-toi. Donc, je vais répondre d'abord et après, ça sera ton tour. Donc, effectivement, moi, comment je procède en gros, parce que je n'ai pas vraiment non plus, comme je disais en entrée de jeu, de méthode. Je ne suis pas fan de la distinction architecte et jardinier, donc je ne me mets pas trop là-dedans. Mais pour les recherches, en tout cas, je fais toujours, quand j'ai une idée de roman, je me dis, est-ce que justement, dans mon champ de recherche, il y a des choses que je sais déjà, il y a des choses que je ne sais pas, et il y a des choses que je crois savoir. Parce que des fois, la recherche va déconstruire totalement une idée ou une image mentale que j'avais d'un vieux souvenir de cours, de je ne sais quoi. Et ça, je vais classer dans ces trois grands thèmes. Donc, si je sais, par exemple, là, je suis sur mon tome 2, la suite des aventures d'Amaury de Villiers, donc j'ai déjà écrit le premier tome, je sais que pour le deuxième tome, j'ai moins de boulot de recherche à faire. Donc, j'ai classé tout ce que je sais de cette période. Mais comme on est légèrement décalé dans le temps, typiquement, le contexte historique, politique et sociologique a déjà changé. malgré le peu de laps de temps qui s'est écoulé. Donc, je sais que je vais faire des recherches là-dessus. Également, j'ai une grande scène, tout début du roman, qui se passe à Narbonne. Donc, j'ai fait des recherches sur qui étaient les comtes de Narbonne à l'époque, comment ça fonctionnait avec les princes évêques de Narbonne, la généalogie de ces personnes-là, avec qui ils sont alliés, avec qui ils sont ennemis, ils sont vassaux de qui, comment ça s'est passé pour eux précédemment pendant la croisade contre les Albigeois, etc., etc. Voilà, je vais me faire des grands thèmes comme ça et je vais entamer mes recherches avant d'écrire pour le coup. Quand c'est ça. Voilà. Et après, au fil de l'écriture, si j'ai des blancs, je préfère écrire d'abord et revenir dessus, je me le surligne. Et je reviens dessus après en me disant, ah oui, là, typiquement, la justice sous Saint-Louis, je sais que Saint-Louis et la justice, ça a un grand rapport. Je sais quoi, Saint-Louis rendant la justice sous le chêne à Vincennes, ok, c'est une image d'Épinal, ça colle pas. Donc, qu'est-ce qu'il en était réellement de la justice itinérante des Viguiers et des Prévôts sous Saint-Louis? Est-ce qu'ils étaient vraiment itinérants à l'époque ou pas, etc. Voilà. Donc, ça va venir au fil de l'écriture.
Oui, oui, oui.
Et là, je vais compléter. Voilà. Donc, j'ai vraiment deux grandes phases, moi, avant. Je sais, je ne sais pas, j'ai besoin. Et après, au fil de l'eau, bah là, ouais, j'ai un gros trou, je ne sais pas. Donc là, j'y avais pas pensé. En fait, c'est venu en écrivant. Parce que,
bah oui, non, mais
parce que des fois, c'est comme ça.
Non, mais complètement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, ça m'arrive quand même régulièrement. voilà, moi, c'est pareil. Du coup, en fait, on a plutôt la même façon de faire. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai une idée de roman qui me vient dans une période donnée. Pareil, il y a enfin, comme c'est le Moyen-Âge, souvent, il y a quand même... J'ai une base, forcément. Il y a là, c'est pareil, du coup, mon roman, il se passe dans une période que j'aime particulièrement. C'est le XIIe siècle. Voilà, j'ai une bonne base. Ça parle des croisades. Mais bon, il y avait par exemple tout l'itinéraire que j'avais pas forcément en tête. Il y a un événement qui se passe à un moment vraiment précis de cette croisade. Enfin voilà, du coup j'avais besoin de revoir tout le contexte. C'est pareil, du coup j'ai commencé en faisant des recherches, en écrivant, en faisant du coup des petites fiches là-dessus. Donc travail préparatoire pour vraiment avoir les idées claires et du coup pouvoir me lancer en fait, parce que sinon. Je trouve que c'est difficile de se lancer si on n'a pas un petit peu le cadre clair. Pour autant, je ne suis pas une architecte. Hein. C'est vrai que du coup, moi pour le coup, c'est vrai que je suis quand même vraiment beaucoup jardinière plus qu'architecte. Donc, même si je brosse un peu mon tableau, j'y vais quand même assez vite en fait. Sauf que je distingue quand même les phases d'écriture des phases de recherche parce que pour moi, elles sont assez... antinomique. Je trouve que si je me mets, c'est ça. Quand je me mets à rechercher, parce que ça m'arrive des fois quand même, d'aller sur internet, du coup, justement, au fil de l'écriture, il me manque un truc et tout. Je me dis, j'ai envie d'aller voir ou de voir un paysage. Enfin, je me dis, mais bon, j'essaye de pas trop rentrer dans le, comment dire, dans la spirale de la recherche, parce que souvent ça me tire complètement en fait
ça te sort de l'écriture
flow, quoi, et de l'écriture, et j'ai du mal à m'y remettre, et ça prend, enfin je trouve qu'après l'écriture est beaucoup moins fluide, et voilà, mais du coup je fais comme toi,
te sort un peu de ton d'écriture en fait, ça te sort de ton monde dans lequel tu écris assez vite, ok, je comprends,
assez vite.
Alors, moi j'ai pas trop ce problème. Par contre, je suis capable d'y passer clairement des heures.
C'est sûr,
parce que ça me passionne et voilà, je suis capable de, entre guillemets, de perdre du temps là-dessus, clairement.
Et c'est un autre écueil, je trouve, hein, en tant qu'écrivain. Et je pense que ça, ceux qui nous écoutent et qui écrivent, à mon avis, se reconnaîtront là-dedans. Des fois, on se met aussi à faire des recherches. Enfin, je sais pas. Moi, je perds du temps aussi. Enfin, je perds du temps. Je m'instruis et je découvre plein de choses, mais c'est vrai que...
Ouais, c'est pas du temps perdu.
Voilà, c'est pas du temps perdu, mais en même temps, c'est pas du temps que je consacre à l'avancée de mon roman. Et des fois, voilà, je me dis, même dans ma tête, je deal avec moi-même en me disant, bon, oui, c'est vrai, je fais des recherches, je sais pas si ça t'arrive des fois, je suis en train de faire des recherches en rapport avec mon roman, c'est un petit peu comme si j'avançais quand même, tu vois, mais je procrastine le moment d'écrire des fois, ça m'arrive du coup de me perdre dans mes recherches et de reporter à plus tard, je me laisse beaucoup faire ça.
Je comprends. Alors moi, j'ai pas trop ce souci, je touche du bois, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que oui, moi, je suis capable d'y passer des heures. Après, je sais Ça, je pense aussi que c'est quand même mon point un peu formation juridique. Je sais quand m'arrêter parce qu'en fait, je sais quand j'ai entre guillemets ma solution. Comme quand je suis en train de travailler sur une jurisprudence, je vais forcément chercher celles qui disent le contraire, mais pas trop parce qu'il faut que je donne une réponse. Donc, je fais exactement comme si j'étais à mon travail en fait, mon travail d'auteur, hein, tout simplement. Et je me dis non, parce qu'il faut que ce que tu es en train de faire, ça te serve à ton résultat. Donc, quel est le résultat que tu veux obtenir finalement. Donc, tu t'écris une petite phrase, aujourd'hui je fais telle recherche. Là hier, du coup tu as vu sur mes stories, j'étais en pleine recherche sur l'Inquisition, mais à un moment précis, vers le tout début de l'Inquisition, la croisade contre les Albigeois, qui n'a rien à voir avec ensuite ce que sera l'Inquisition espagnole, par exemple, fin du 13e, oui, début du 14e. Donc là je me suis dit, voilà, moi ce que j'ai besoin de savoir, c'est la procédure inquisitoriale à l'époque, comment on fait, est-ce qu'il y a des témoins? Oui. Comment on auditionne ces témoins et clairement, est-ce qu'il y a droit à une défense? Et réponse, bizarrement, oui, il y a droit à une défense, mais que dans un seul cas. Donc voilà, c'est quand même particulier. Du coup, là, tu dis, voilà, bah, c'est bon, je suis cadrée, oui. Je sais où je voulais aller, j'ai ma réponse. Maintenant, est-ce que j'utilise ou pas? Ça, c'est aussi quelque chose, par contre, qui je trouve un peu tricky dans les recherches, c'est que des fois, je vais chercher plein de trucs et je n'utiliserai pas la moitié de ce que j'ai cherché.
Je vois bien ce que
ça,
tu
je sais pas si ça te le fait.
Ça me parle complètement. Oui, oui, complètement. Complètement, complètement, complètement. Oui, oui. Mais du coup, tu vois, moi, je fais comme toi aussi. Enfin, au fil de la plume, là, il y a plein de choses qui me viennent. Je surligne, quoi. Pour continuer à écrire, je surligne et je me dis, tu reviendras après. Typiquement, par exemple, s'il y a une scène... là justement c'était une scène de banquet, j'avais un doute quand même sur la présentation ou sur les aliments, enfin je me disais bon, t'arrêtes pas pour ça, pour si peu quand même, je surligne et je repasse après, enfin je veux dire même des détails vestimentaires ou des choses comme ça, c'est pareil quoi.
Oui, non mais c'est vraiment compliqué. J'ai eu une scène à écrire en début de roman aussi, qui est une scène dite de haute volerie, donc c'est de la chasse au faucon, ou en tout cas avec un oiseau.
Sympa.
Donc ça a été, mais j'ai découvert que il y avait encore des fauconniers de nos jours et ils font des vidéos YouTube. Donc c'était juste génial de pouvoir voir en direct
en vrai. Presque, bah oui.
Un vol de d'oiseaux. Alors là c'était des faucons, mais dans ma scène ce sont des éperviers. Donc là aussi il y a une distinction entre les différents oiseaux et etc. Et pour ton banquet, tiens, j'ai une petite astuce à te donner. Je ne sais pas si tu connais le compte de recettes médiévales, compte Instagram, mais voilà.
Forcément.
C'est une mine d'or. Moi, je me suis commandée, j'ai participé à sa campagne de financement participatif pour son livre de recettes.
Ah bah, oui.
J'ai hyper hâte de le recevoir parce que je sais que derrière, il bosse avec des historiens, etc., qui sont formidables. Et derrière ce compte, il y a quelqu'un de vraiment très gentil.
Oui,
et quand je vais parler chasse aux faucons, voilà, il faut simplement lui envoyer un petit mot. Et il m'a envoyé plein de... d'enluminure de chasse aux faucons, de la grande vannerie de Gaston de Foix, etc. Donc, c'était génial, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter aussi des fois à solliciter parce qu'il y a des personnes qui vont savoir ce que nous, on ne sait pas forcément. Et il ne faut pas
hésiter à leur demander. Effectivement. Exactement. Oui, tout à fait. Ouais, moi, je me suis penchée aussi sur ça. J'ai pas encore, je ne sais plus si c'est fini. Le livre, il a l'air... génialissime. J'adore les arts de la table en plus et tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc qui me passionne. Je me dis qu'il fallait que je l'achète, le science, qu'il a l'air quand même magnifique et super bien documenté, quoi.
La documentation est très très bonne. D'ailleurs, il participe à des reconstitutions souvent. Donc, là-dessus, il est au top. En plus, il est vraiment adorable. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions, des fois. C'est comme ça que c'est venu. Hein. Donc ça, c'était une autre de mes questions. Tiens, du coup, on va pouvoir... je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu as des sites favoris, des sources favorites que tu recommanderais à quelqu'un qui se lancerait dans l'écriture d'un roman historique et particulièrement sur la période médiévale, qui, je rappelle, du coup, est super longue. Hein, c'est 1000 ans, donc c'est vrai.
Bah, moi, je lis principalement sur Percé et sur Cairn, en fait. Beaucoup. Je ne sais pas toi si tu en as d'autres, mais c'est mes deux sources principales, on va dire, d'informations, parce que du coup, on peut avoir notamment sur Percée des textes qui sont numérisés.
Oui, c'est des facsimilés, c'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est chouette, quoi. Il y a plein de choses qui sont disponibles. En fait, c'est mes deux sources principales. Après, j'ai des livres à la maison aussi, moi, qui sont aussi… je te dis, j'avais fait prépa. J'ai eu toute une période sur le Moyen-Âge. Donc, elle nous avait acheté aussi pas mal d'ouvrages historiques et des ouvrages de recherche. Mais alors après… Voilà, je vais chercher des informations sur la chronologie, sur c'est souvent de la géopolitique d'ailleurs, c'est ce genre de, enfin en tout cas ce que j'ai et qui parle du coup du contexte géopolitique, social, voilà. Mais pour des articles un petit peu plus, c'est souvent Cairn et Percée sur lesquels je vais, quoi.
Moi, je vais aussi sur Percée énormément et sur Cairn, bien entendu. C'est vraiment des ressources très intéressantes. Et j'ajouterai Gallica, le site de la BNF, qui met un fonds documentaire à disposition gratuitement qui est hyper large. Et donc, alors là, ça va aussi être plutôt, par exemple, des photos de manuscrits dans les murs, des choses comme ça. Mais tu vas aussi trouver des extraits de documents ou de thèses. Et ça, c'est hyper important parce que je trouve que comme ça, on est plus proche de la recherche et de ce qui peut se faire en termes de recherche actuelle. Il y a un excellent podcast que moi, j'adore, qui est Passion médiéviste et que je recommande à tout le monde parce que là, c'est une jeune femme qui interroge sur des thèmes précis des doctorants en histoire médiévale. Donc là, c'est hyper actuel. Et ensuite, vraiment, oui, moi aussi, j'ai mes livres, mes petits chouchous. Bon, forcément, le Moyen-Âge de Michelet, c'est quasiment un incontournable, hein, 1500 pages sur papier Bible. Mais bon, hein, quand on cherche quelque chose, en général, c'est dedans.
C'est ça.
C'est souvent le cas. C'est un peu la Bible.
Oui.
Beaucoup, beaucoup d'ouvrages de Le Goff, hein, bien entendu, donc son Templier, son Une histoire de l'Occident médiéval qui est très, très bien faite. Ça, c'est vraiment mes livres de référence. Et après, selon les époques, tu peux avoir vraiment, entre guillemets, de la chance. Par exemple, c'est vrai que quand j'ai écrit les Mirages de Terre Sainte, j'avais une chance inouïe, c'est que Jean de Joinville a écrit La vie de Saint-Louis et ça a été pour moi une source inépuisable.
Je ne l'ai pas lu. Celui-là, mais c'est vrai que... Ah ouais.
Là, c'est génial parce qu'en plus, ils ont eu l'intelligence de sortir une édition où tu as le texte en ancien français et traduit en français. Donc en plus, ça peut t'apporter
un
vocabulaire médiéval.
Et même en termes d'immersion, c'est clair que du coup, c'est génial. Super.
Il y a des trucs vraiment comme ça sympas. Quand tu étudies le catharisme, et en tout cas la religion, l'hérésie albigeoise, un incontournable qui doit être d'ailleurs le premier que j'ai lu, c'est Montaillou, Village Occitan, la thèse de Emmanuel Roy Ladurie, et Les femmes cathares d'Anne Brenon. Donc ça, c'est vraiment deux piliers pour moi de la recherche. Je crois qu'on n'a pas fait mieux depuis sur les études cathares. C'est d'autant plus difficile que c'est un sujet qui touche un peu comme les Templiers à des ramifications, on va dire, ésotériques, qui sont du coup pas historiques. Et faire le tri, des fois,
c'est ça. Moi, je connais moins les hérésies cathares, mais c'est vrai que pendant un temps, je m'étais beaucoup intéressée à l'ordre des Templiers. Et bon... C'est vrai que c'est pas forcément... Il y a de tout, quoi. Il y a vraiment de
tout. T'as de tout. C'est sûr que quand tu sais pas et que tu te diriges vers les Templiers et que le premier sur lequel tu tombes, c'est « Les Templiers sont parmi nous » de Gérard de Sède ou « Le trésor de Gisors », et là, d'un coup, tu tombes dans un monde où tu te dis « Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Comment ? À quel moment ? Comment ça se passe ?» Donc voilà, c'est vrai que c'est des livres qui ont été plutôt en vogue dans les années 70-80. Hein. C'était les collections noires, les guides noirs des éditions Thieu, etc., où c'était vraiment spécialisé dans l'ésotérisme historique.
Oui.
Donc, tu as vraiment de tout. Et encore aujourd'hui, c'est ça qui est marrant, si tu tapes « Templiers » ou quoi dans un moteur de recherche, ceux-là vont te sortir en tout premier. On va te sortir « Les Templiers sont parmi nous ». Alors que c'est un livre qui remonte et qui a fait les belles heures des éditions ésotériques, mais qui n'a presque rien d'historique. En fait. C'est ça qui est fort.
C'est quand même balèze. Mais bon, après, oui. En même temps, ça peut quand même...
C'est difficile des fois de trier.
Clairement.
Ça peut être une super source d'inspiration pour le coup.
C'est ça, on est d'accord.
Purement historique. Ouais. ça peut être une super source d'inspiration.
On est clairement d'accord. Bon, et eh ben écoute, moi j'avais, je sais pas, est-ce que tu avais d'autres questions sur le sujet? On a pas mal.
Ouais, je me demandais si tu avais une petite astuce justement pour te simplifier la vie avec tes recherches ou tu fais comme moi, c'est un peu quand même le brouillon, le bazar un peu.
Non.
Est-ce que tu es plus ordonnée?
je te dis, en fait, moi je suis dans la team. Moi, c'est le package total. Alors, toi, tu me sembles beaucoup plus carré que moi. En fait, même, tu sais, de par ton métier, je pense que tu es assez rigoureuse et méthodique. En fait. Moi, si tu veux, ça part toujours un peu dans tous les sens. Voilà, je suis 100% jardinière et 100% bordélique. Donc voilà, c'est pas toujours simple. Bon, j'ai quand même un petit carnet de recherche, en fait. Enfin, j'en ai plusieurs, forcément. J'en ai en fonction de... Bah, des thèmes sur lesquels je travaille et du coup dedans j'organise par grands thèmes en fait, tu vois, là j'avais j'avais des pages croisades, des pages vie quotidienne on va dire, plus bah du coup habillage, hygiène, enfin des choses un petit peu, des détails en fait, mais qui je trouve vont donner toute la profondeur et toute l'immersion en fait dans le roman, et je trouve que quand on est romancier, enfin c'est indispensable justement
complètement.
Bah, d'aborder ce genre de
c'est des choses toutes bêtes, mais c'est vraiment comment s'étaient fait les rues.
Oui.
Comment une boutique elle est faite, hein. Donc on sait que les boutiques sont sur la rue, donc c'est quand même très différent de ce qu'on va trouver aujourd'hui. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui font
la différence en fait,
hein, qui font une différence dans ce que tu vas raconter et qui vont donner l'authenticité du récit. Je pense aussi le fait que derrière on ait fait ce travail-là, ça me semble quand même à saluer déjà. Et puis ouais, je pense que c'est une grande source, comme on en parlera peut-être plus tard du vocabulaire.
Oui.
Je pense que les recherches, c'est un pilier du roman historique. Je pense qu'on peut clairement pas s'en passer.
On peut pas s'en passer, non, c'est clair. Après, c'est vrai que j'ai lu des romans historiques qui étaient moins... moins ancré, quoi. Enfin, je veux dire, qui, du coup, était, la chronologie était plus floue. Enfin, je sais que là, j'en ai lu un qui était, du coup, dans la case roman historique, parce que, du coup, ça se passait au XIIe siècle en Écosse. Mais, en gros, on ne sait pas grand-chose du climat politique. Enfin, si, on sait que, du coup, quel roi. Mais bon, c'est vrai que ce n'était pas fouillé non plus. Je pense que ça dépend aussi des auteurs. Mais bon, c'est vrai que moi,
totalement. Et puis du style, okay. C'est sûr que je pense qu'on n'aborde pas de la même façon un genre comme la romance historique, où là, clairement, ça va être centré sur les personnages dans un contexte historique.
Voilà, c'était une romance historique, justement.
Oui, voilà. C'est pour ça quand tu as dit Écosse, etc. Ça se situe, c'est très à la mode en ce moment, ça marche très bien, donc tant mieux.
Oui, c'est vrai.
Parce que si ça amène en plus des gens à l'historique, c'est top. Mais c'est vrai que je pense que du coup, le contexte est vraiment différent pour l'auteur, parce que lui, il veut se concentrer sur les relations entre les personnages et les personnalités aussi des personnages, moins sur le contexte historico-politique qui, dans un roman historique... Ça. Comme on en écrit, et notamment si tu fais des croisades, tu ne peux pas dire ils partent en croisade et pas expliquer les tenants et aboutissants, ça c'est pas possible.
C'est ça. Puis là, du coup,
tu peux, mais
le challenge,
un autre genre.
Moi, c'est pareil, du coup, il va y avoir un peu de romance. Enfin bon, c'est vrai que c'est un petit peu, du coup, c'est pas... Enfin bon, là, c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans les détails du truc encore, parce que je veux pas trop en dire, mais... Mais c'est vrai que là, le gros défi que j'ai, c'est vrai que je connais beaucoup le Moyen-Âge occidental, mais que là, du coup, il faut que je fasse beaucoup de recherches sur la partie orientale. Forcément, là, du coup, ça se passe en Orient, quoi. Donc, là, c'est vrai que c'est le gros du truc. Là, en ce moment, mais en même temps, c'est passionnant. Là, c'est passionnant.
Si tu l'as, mais si tu ne l'as pas, procure-toi Les Croisades de Zoé Oldenbourg.
Non, je l'ai pas.
C'est un très très bon livre de généralisation et quand même très très fouillé. Donc tu as une grande partie quand même sur la vision orientale des croisades. Mm-hmm. Et je crois que tu as aussi un petit livre qui s'appelle La croisade vue par les musulmans, que moi j'ai lu, je crois bien que c'est ça, qui est très bien pour avoir justement cette autre vision, cet autre côté. Ça peut t'aider, parce que c'est pas très long de mémoire, c'est tiré d'une thèse, hein, je crois bien. Mais c'est un très très bon ouvrage pour t'aider si tu en as besoin.
En ce moment, ouais, en ce moment, je patauge un peu quand même, hein, honnêtement. Tu vois, en fait, j'avais assez bien cadré le démarrage et là, j'arrive dans une phase où, voilà, il faut à nouveau que je refasse une session de recherche oui. Parce que ça patauge un peu là.
On est tous, je pense qu'on est tous pareils. On a des moments clés dans nos romans quand on écrit. Oui. Moi, je sais que par roman, j'ai un Everest à franchir. J'ai un moment qui est pour moi le moment vraiment phare. Et je repousse généralement très, très souvent l'écriture de ce moment-là. Et des fois, ben, les recherches peuvent t'aider à anticiper et à mieux à surmonter un petit peu cette petite peur qu'on a, parce que pour nous, c'est le moment qu'on attend. On a envie d'écrire en même temps qui nous fait très peur, parce qu'on ne veut pas se planter.
Ben donc, oui.
Ce genre de petite lecture, ça peut te remettre en selle en te disant, ah ben, finalement, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Je dois pouvoir trier et faire ma petite sauce. Moi, clairement, dans Les Mirages de Terre Sainte, c'était la bataille dans le Mansoura, hein, j'en avais très très peur, parce que les batailles comme ça, c'est pas un combat, c'est y a de la stratégie militaire, oui, derrière, il y a beaucoup de choses. C'était un peu compliqué,
c'est vrai que
j'en avais très très peur. J'en avais vraiment très très très, très peur, et c'est en lisant Jean de Joinville que j'ai réussi à surmonter ma peur, parce que justement c'était très détaillé. Et j'avais presque, allez, j'exagère, mais heure par heure, le combat. Donc, ça, c'était très avantageux
pour moi.
C'est
vrai que du coup, ça t'a permis de vraiment bien baliser le truc, quoi.
Exactement. Donc, je pense que le livre de Zoé Oldenbourg pourra t'aider, parce qu'il est très bien fait. Il partitionne toutes les croisades et il y a un grand, grand volet sur Saladin et puis le côté oriental. Donc ça,
bah, ce serait, ouais, il faut que je regarde.
Surmonter un peu ça.
Ouais, c'est ça, parce que là, en ce moment, je suis un petit peu en rade. Un petit peu en rade, mais bon, de toute façon…
En tout cas… Avec mes petits outils, mes petits bras et mon petit cerveau, si je peux être d'une quelconque utilité, bien entendu, tu n'hésites pas. Et j'en profite pour le dire à tous ceux qui nous écouteront. Nous sommes toutes les deux sur Instagram, que ce soit Mariella ou moi. N'hésitez pas si vous avez une question sur comment on fait des recherches, où est-ce que je peux trouver tel truc.
Ou des choses qui concernent le Moyen-Âge, en fait. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu notre sujet de prédilection. Donc,
Exactement. Si... Et on est là aussi un peu pour ça.
C'est un peu pour ça qu'on fait ce podcast aussi, tout à fait. Bon, bah écoute, merci. Ouais, il faut que je note la référence là tout de suite. Et puis, parce que vraiment, je ne connaissais pas ce livre-là et il faut que je m'y mette. Mais toi, tu arrives à bien, du coup, parce que bon, ce qui n'est pas facile, hein, c'est d'organiser tout ça. En tout cas, quand on a un travail à côté. organiser du coup ces lectures, enfin du coup ces recherches, ces lectures plaisir, ces lectures recherche et ces phases d'écriture. Toi, tu te fixes pas forcément de, tu fais au fil
d'objectif, au fil de l'eau. Typiquement, ce que je vais faire quand je suis par exemple dans les transports. Je vais me mettre un petit podcast, je vais me mettre une petite vidéo YouTube. Il y en a des très bien faites, il y a pas mal de channels. Alors là aussi, il faut trier, mais il y a quand même des choses très sympas sur YouTube, des gens qui sont très sérieux, des archéologues, des historiens. Il y a on peut trouver même c'est un peu plus long, mais des retranscriptions de conférences sur des thèmes du Moyen-Âge. Donc, c'est quand même hyper utile. Donc ça va être pendant mon temps de transport où je vais me mettre ça. Et après, en général, oui, quand je suis à la maison, j'essaye de faire beaucoup de lectures, en fait. J'ai pas mal de magazines parce que j'étais abonnée à Histoire des civilisations, le magazine du Monde, qui est très bien fait, où il y a souvent des belles photos aussi. Donc, ça aide, ça fait une petite respiration.
Moi j'aime bien aussi quand il y a justement des illustrations et des photos. Puis nous, en tant qu'écrivain, c'est important de visualiser, quoi. C'est-à-dire aussi de se nourrir d'images, je trouve. Pour pouvoir les retranscrire après aussi. Enfin, je trouve que c'est aussi intéressant.
Donc, il y a des magazines comme ça très bien faits. Il y a celui-ci, il y a Histoire du Moyen-Âge. Bon, moi, j'étais abonnée à la branche Qatar de Pyrénées Magazine. C'est quand même...
c'est quand la même niche.
Ça, c'est l'obsession. Ouais, c'est l'obsession un peu loin. Mais je suis vraiment... Enfin, je crois que j'ai... Ouais, je dois avoir deux étagères dans ma bibliothèque qui sont consacrées au Qatar.
Oh la vache.
C'est énorme.
Anaïs Diro, la référence sur Instagram des Qatars.
Qatar, si jamais. c'est chez moi. Faut sonner au 12. Donc, J'essaie de partitionner mon temps comme ça. Après, il n'y a pas vraiment de miracle. Malheureusement, il faut qu'on lise et qu'on absorbe. Oui. Quand j'en ai un peu plein la tête aussi, si j'aime bien un outil comme Pinterest, qui là est que des photos, mais du coup, si tu te fais ton petit tableau, bah, c'est vrai que de temps en temps, tu regardes un peu les photos, ça te remet un peu dans le train, ça te remet un peu, comme tu disais, dans la visualisation.
Ouais, c'est ça fait souffler un petit peu, ça fait s'évader, ça relance l'imaginaire quand même. C'est vrai que Pinterest, exactement, à ce niveau-là, on a quand même beaucoup de chance, je trouve, en tant qu'écrivain dans notre ère, là, je me dis, les autres, les plus anciens, comme ils pouvaient faire, parce que là, il suffit d'ouvrir une page Internet et on a une ouverture entière sur le monde entier, sur d'autres époques, enfin, c'est fou quoi.
Et de l'aide aussi, comme je te disais tout à l'heure, faut pas hésiter à demander, à discuter, des fois en discutant tout simplement avec un autre auteur, même s'il écrit pas des romans historiques, ça débloque un point. C'est assez marrant d'ailleurs, je fais souvent ça avec mon mari, je me tourne vers lui et je lui dis, ah là là, je suis sur tel truc, lui est dans son canapé, et puis je dis, ah, j'ai tel point, ça ne va pas, et en lui disant, ça me vient, en fait.
C'est vrai.
Ah oui, ça y est.
Bon, mais c'est bon, j'ai plus besoin. En restant dans sa tête, là, on tourne le truc par tous les sens dans notre tête, puis des fois, juste le verbaliser, expliquer à quelqu'un, ça nous permet de prendre une... Ouais, je vois très bien. Moi, ça m'arrive aussi très, très souvent d'essayer d'expliquer ça à quelqu'un, puis d'un coup, je prends du recul, il y a une autre perspective, et pouf, ça permet de se relancer. Ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas rester tout seul. Non, mais il ne faut pas rester tout seul, en fait. C'est vrai qu'il faut essayer d'en parler. Et puis bon, je trouve que la communauté Instagram est chouette pour ça aussi, quoi. Franchement.
On ne le redira jamais assez. Je crois qu'on l'a dit dans notre épisode où on s'est présenté. Mais oui, Instagram, pour moi, c'est une super communauté, très bienveillante dans la grande majorité des cas. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, aussi à solliciter les personnes.
Des auteurs, des personnes. Ouais, voilà. Non, complètement. Complètement. Bon, voilà. Écoute, on va peut-être rester là-dessus pour cet épisode-là. Ça paraît bien. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis voilà. On peut peut-être dire aussi aux gens qui nous écoutent de ne pas hésiter à réagir. Hein, parce que du coup, moi, on va poster sur Instagram, je sais pas, à nous envoyer des messages ou à commenter si jamais il y a des questions à l'issue de ça. Enfin voilà, moi, c'est aussi le but de ce podcast, c'est que ça puisse faire naître des échanges. Et puis voilà, faut pas hésiter.
Le partage, je suis 100% d'accord avec toi.
Voilà. Et puis, écoute, on se retrouve pour un nouvel épisode.
Avec grand plaisir. Bientôt. Merci, Mariella.
Allez, à bientôt. À bientôt, Anaïs.
Retrouvez toutes nos actualités en nous rejoignant sur Instagram sur les comptes Mariella Vesco, auteur, et The French Storyteller.